du programme de...
Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence de M. Jérémy Benoît, conservateur en chef du château de Versailles et principalement en charge du château de Trianon et entre autres du chantier de restauration du hameau de la Reine qui a débuté en 2015. Alors, nous attendons tous impatiemment l'inauguration du hameau de la Reine qui devrait, nous l'espérons, vous allez nous en dire peut-être quelque chose, dans les prochains mois. Et en tout cas, au niveau des visites des Amis de Versailles, nous envisageons d'organiser au moins 2 visites en juillet du hameau sous la conduite de M. Jérémy Benoît. Donc ce soir, nous aurons le privilège de connaître en avant-première, j'espère, les choix qui ont été faits pour le remeublement. Et notamment les parties prises pour les aménagements intérieurs en l'état 19e, c'est-à-dire de l'impératrice Marie. Je laisse la parole à M. Benoît. Merci.
Bien, bah écoutez, merci d'être venus aussi nombreux. Je crois qu'effectivement, le hameau, c'est quelque chose qu'on attend tous depuis de longues années. Ce sera le 4e musée de Versailles, il ne faut pas l'oublier, même si c'est le plus petit. Et c'est un lieu que personne de vivant de nos jours n'a vu meublé. Donc je pense que ce sera véritablement une révélation, d'autant que comme je vais vous montrer des images tout à l'heure, comme vous le verrez, ce sera absolument extraordinaire et très en rupture avec l'esprit du hameau à l'extérieur. Il y a un véritable luxe qui se prépare à l'intérieur qu'on ne peut pas prévoir en regardant les maisons du hameau. Voilà, donc je vais vous parler de cet ensemble. Oui, vous m'entendez tous bien ? Non ? Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Il s'est peut-être rééteint. Ah oui.
Voilà.
Ça va là ? Oui. Voilà, donc je vais vous parler du hameau, bien sûr, mais je vais vous parler plus généralement, en fait, du jardin de la Reine, parce qu'on ne peut pas séparer le hameau de l'ensemble conçu par Marie-Antoinette à partir de 1774, lorsqu'elle a reçu donation du petit Trianon de la part de Louis XVI. Donc, je vais d'abord, pour commencer, vous citer un extrait du recueil de poésie « Les Jardins » de l'abbé de Lille, publié en 1782. Et vous allez déjà comprendre un petit peu l'esprit de l'époque. « La ferme, le trésor, le plaisir de son maître réclamera d'abord sa parure champêtre, que l'orgueilleux château ne la dédaigne pas. » La ferme, à ce seul nom, les moissons, les vergers, le règne pastoral, les doux soins des bergers, c'est bien de l'âge d'or dont l'image chérie, plus tant à mon enfance, âge d'or de la vie, réveille dans mon cœur mille regrets touchants. Venez, de vos oiseaux, j'entends déjà les chants, j'entends rouler les chars qui traînent l'abondance et le bruit des fléaux qui tombent en cadence. Voilà, ça c'est une poésie qui est extrêmement révélatrice de l'esprit qui a présidé à la construction du hameau. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc l'abbé de Lille suggérait en fait à tous les puissants de l'époque de construire dans leur parc, dans leur jardin, des fermes et également des petits villages de fantaisie qui puissent montrer, qui puissent évoquer le travail des champs de la population française. C'est donc en 1783 que Marie-Antoinette a commencé la construction de son hameau. Et je vous montre ici, pour commencer, une aquarelle du peintre Claude-Louis Chapelet, qui sera guillotiné en 1794, on y reviendra. C'est une aquarelle qui se trouve dans les recueils que Marie-Antoinette avait commandé, on y reviendra, pour les invités très prestigieux qu'elle avait reçus au Petit Trianon, c'est-à-dire Joseph II, son frère, l'empereur germanique, bien sûr, mais également Gustave III de Suède, le tsar, le futur tsar Paul Ier de Russie. Elle avait fait faire spécialement pour eux des recueils d'aquarelles montrant les constructions de son jardin de Trianon et également des vues du hameau. Mais il faut savoir que le hameau de Trianon n'est pas le premier qui ait été construit. Alors je vais vous montrer d'abord. Pardon. Oui, il faut que je m'y repère, excusez-moi. Voilà, simplement, excusez-moi, oui, pour vous montrer, c'est simplement la maison de la reine que nous allons restaurer et qui normalement sera inaugurée le 2 mai prochain. Si tout va bien, on y reviendra tout à l'heure également. Hein. Donc je vous disais que le hameau de la reine n'était pas le premier à avoir été construit. Et en 1774, le prince de Condé avait fait construire dans son parc de Chantilly un hameau par son architecte Jean-François Leroy, dans lequel il y avait un salon, un billard, une salle à manger, un moulin. Il y avait 5 petites maisons de style normand avec des colombages qui rappellent en fait le hameau, mais qui sont beaucoup, le hameau de la reine, mais qui sont évidemment beaucoup plus simples, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas ce côté pittoresque qui vient en fait essentiellement du peintre Hubert Robert qui avait donné les modèles des maisons du hameau de la Reine. En fait, le hameau de la Reine est le plus parfait, le plus réussi, peut-être le mieux conservé également de tous ces petits hameaux qui avaient été construits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, le goût était un retour à la nature, dans l'esprit bien sûr de Jean-Jacques Rousseau. En fait, la société était considérée comme tellement artificielle, avec tout ce décorum qui entourait la noblesse, hein, pensez à tous ces costumes brodés, pensez à le port des perruques, qui était extrêmement condamné par la société bourgeoise du XVIIIe siècle. En fait, peu à peu, les intellectuels du temps, dont Jean-Jacques Rousseau en tête, mais également les encyclopédistes plus généralement, avaient souhaité revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, de façon à régénérer l'homme. Il faut savoir que cette notion de régénérescence de l'homme, qui a été pris en compte par une partie de la noblesse, le duc d'Orléans en particulier, c'est quand même une des grandes idées de la Révolution française. Donc tout ce terreau, si vous voulez, a été préparé en fait dès avant la Révolution par une certaine classe de la noblesse. Et Marie-Antoinette y a participé en faisant construire son jardin du Petit Trianon d'une part, mais également son hameau. Alors c'est également l'esprit de François Quesnay, qui était médecin de Madame de Pompadour, il ne faut pas l'oublier, qui était le maître des physiocrates également. Les physiocrates qui voulaient absolument revenir à un esprit qui montrait que le travail des paysans était tout à fait honorable, alors qu'en fait, comme vous le savez, la noblesse, elle, ne travaillait pas et vivait des revenus justement des paysans. Hein. Donc il y avait tout ce mouvement de fond qui a porté vers le retour à la nature, la prise en compte de l'homme régénéré, le bon sauvage qui était si à la mode au XVIIIe siècle, dans l'esprit de Rousseau en particulier, mais également de Voltaire. Et donc le bon sauvage en Europe, tout simplement, c'était le paysan. Et c'est pourquoi également Marie-Antoinette donc, avait voulu avoir elle-même dans son jardin de Trianon un hameau qui fut en fait une espèce d'exploitation agricole véritable dans laquelle elle avait fait venir, on y reviendra, de véritables paysans précisément. Hein. C'était Rousseau justement qui mettait en cause cette notion d'égalité, d'inégalité qui présidait la société du XVIIIe siècle, et précisément on luttait contre cette inégalité, et en particulier Jean-Jacques Rousseau avait écrit le fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Vous voyez que tout ce mouvement de fond a été pris en compte par une certaine aristocratie jusqu'au niveau royal, sans qu'eux-mêmes se rendent bien compte de ce qu'ils faisaient. On le verra d'ailleurs plus tard, lorsque Marie-Antoinette, sur le petit théâtre de Trianon, jouera la pièce du barbier de Séville, qui est absolument subversive envers la noblesse et le pouvoir royal. Alors cette réflexion sur le retour à la nature, sur le retour à la paysannerie, c'est la mise en valeur du travail agricole, s'accompagnait également d'une mode totalement nouvelle qui était venue d'Angleterre, celle des jardins anglo-chinois. Le premier exemple, c'est à Kew, en Angleterre, dans les environs de Londres. L'architecte Sir William Chambers avait dessiné et tracé tout un parc à l'anglaise, une sorte de nature idyllique repensée, si vous voulez, avec de jolies perspectives, de très beaux arbres de couleurs, etc., dans laquelle il avait également placé en 1761 une pagode chinoise. Donc vous voyez ce goût des chinoiseries, des fausses fabriques, voilà, c'était totalement artistique, si vous voulez, artificiel, mais en même temps avec un véritable retour à la nature. Donc cette mode des jardins, bien entendu, avait été mise en valeur également par Jean-Jacques Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, puisque lui-même décrivait le jardin de son héroïne Julie, hein, dans ce livre de 1760. Et puis bien sûr, il y a eu des théories des jardins qui étaient parues à peu près à la même époque, comme l'essai sur les jardins de Whately, paru en 1774, ou la théorie des jardins de Morel, également paru en 1776. Donc c'est dans ce contexte, puisque là nous sommes vraiment dans les dates de début de tracé du jardin de la reine à Trianon, que sont parus ces livres. Alors il y avait d'autres jardins célèbres à l'époque, hein, bien sûr, je vais vous en montrer maintenant quelques exemples. Voici d'abord le jardin du marquis René-Louis de Girardin à Ermenonville, bien sûr vous le connaissez tous, hein. C'est un jardin qui avait été d'ailleurs inspiré par Rousseau directement, La Nouvelle Héloïse précisément, et le marquis de Girardin avait fait venir Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, où l'écrivain d'ailleurs était mort en 1778, et il lui avait édifié un tombeau dans l'île des Peupliers, tombeau que vous voyez sur la droite, voyez, et cette île des Peupliers avec le grand monument, cette construction de fausses ruines romaines également. Hein. Alors nous avions également une mode beaucoup plus artificielle, beaucoup plus joyeuse, par exemple la bagatelle tout simplement, où le beau-frère de Marie-Antoinette, le comte d'Artois, futur Charles X, avait fait construire en 3 mois, suite à un pari avec la reine, un fameux petit château, le château de Bagatelle, qui deviendra d'ailleurs, je vous le signale, palais impérial sous l'Empire. Napoléon en fera un palais impérial. Voilà, donc voici ce fameux château du comte d'Artois, qu'on appelait la folie d'Artois à l'époque. Et puis dans le jardin, vous connaissez également, il y a une fausse grotte avec une fausse cascade. C'est un véritable jardin anglo-chinois, comme on les appelait à l'époque. Il y avait également, au même moment, le futur Philippe Égalité, donc le cousin de Louis XVI, avait fait, qui était encore duc de Chartres à l'époque, avait fait construire et tracer entre 1773 et 1779 par un dessinateur qui s'appelait Carmontel, très célèbre, hein, le célèbre parc Monceau de Paris, que voici donc. Avec ces fausses constructions, ces fausses ruines romaines, fausses colonnades que vous connaissez également, c'était justement tout ce que ne souhaitait pas Marie-Antoinette. Non pas qu'elle n'aimait pas les constructions chinoises, non pas qu'elle n'aimait pas les fausses ruines également, mais c'était tellement dense au parc Monceau à Paris qu'elle avait repoussé tous les projets qu'on lui avait proposé à partir de 1774, quand elle est devenue propriétaire donc du petit Trianon. Vous savez que Louis XVI le lui avait offert en juin 1774 avec une clé qui était sertie de 521 diamants, clé qui a évidemment, bien évidemment, disparu. Donc c'était en particulier le jardinier de Louis XV, Claude Richard, avec son fils Antoine Richard, donc qui tous les deux avaient proposé un projet de jardin à Marie-Antoinette qui était complètement envahi de fausses pagodes, de faux temples chinois, de fausses ruines romaines, de temples grecs, de pyramides, etc. Et donc la reine avait totalement repoussé ce jardin. Elle avait ses idées bien arrêtées et dès le mois de juillet 1774, Marie-Antoinette donc va à Paris chez le comte de Caraman visiter son jardin chinois qui a disparu malheureusement qu'il avait fait tracer dans sa propriété parisienne, et c'est à lui qu'elle demandera précisément de lui faire un projet de jardin pour le petit Trianon. Alors le projet de jardin du comte de Caraman sera accepté par la reine malgré quelques modifications. Par exemple, vous savez qu'il devait y avoir sur l'emplacement actuel où il y a un troupeau de vaches dans le fond du jardin près du hameau, il devait y avoir une espèce de construction qui devait s'appeler Sans Souci, qui n'a jamais été réalisée mais qu'on voit très bien sur les plans très anciens. Donc la reine avait donc demandé au comte de Caraman de tracer ce jardin, il a été donc accepté comme je vous disais, et Claude Richard a été obligé donc très vite de déménager toutes les collections botaniques du roi Louis XV qui environnaient jusqu'alors le petit Trianon. Donc toutes ces collections botaniques sont parties donc au jardin du roi, c'est-à-dire au jardin des plantes actuelles. Sauf quelques vieux arbres qui subsistent encore, dont le fameux Sephora japonica qui est au pied du petit Trianon, un très bel arbre. On a eu très peur en 99 que la tempête ne l'emporte, mais il a survécu. Il subsiste également un très vieil if qui semble avoir été planté du temps de Louis XV également, un peu plus loin, près du lac qui est au pied du belvédère. Donc ce jardin, une fois installé, Marie-Antoinette a fait appel à son architecte Richard Mick, qui était d'origine lorraine, pour construire quelques bâtiments que lui avait proposé donc le comte de Caraman pour le jardin de Trianon. Alors Richard Mick est un personnage intéressant. Il faut savoir qu'il était lorrain. Or, dans l'entourage de Marie-Antoinette, il y avait énormément de lorrains. Si vous voulez, on arrive là à comprendre un petit peu le milieu dans lequel la reine voulait évoluer, en rupture avec la cour de Versailles, qui, comme vous savez, elle ne supportait pas. Donc, il y avait d'abord Bonnefoy Duplan, son intendant du Petit Trianon, qui avait été au service de la reine Marie Leczinska. Il y avait donc Richard Mick, qui avait été architecte de la ville de Nancy et de la ville de Lunéville, et que Marie Leczinska avait fait venir à Versailles pour qu'il lui construise un couvent, qui est devenu le lycée Hoche. Alors Richard Mick est un des grands tenants du retour à l'Antiquité dans l'architecture, comme vous savez, pensez à la chapelle du lycée Hoche précisément. Et il y avait d'autres personnages également de l'environnement lorrain de Marie-Antoinette. Ce qu'il faut savoir également, ne l'oubliez jamais, c'est que Marie-Antoinette est une Habsbourg, mais elle est une Habsbourg lorraine, puisque son père avait été duc de Lorraine avant d'épouser l'impératrice Marie-Thérèse. Donc là, nous tenons vraiment un véritable milieu qui évoluait autour de Marie-Antoinette. Donc Richard Mick va devenir très vite premier architecte du roi, puisque Gabriel, le grand architecte du 18e, de Louis XV, se retire en 1775 et c'est lui, donc Richard Mick, qui va le remplacer. Et aussitôt, la reine va lui confier tous les travaux du petit Trianon. Alors voici d'abord le Temple de l'Amour, qui est la première construction inaugurée le 3 septembre 1778 avec une fête assez mémorable. Il est situé dans une île de la rivière anglaise en direction du hameau. Alors c'est un temple grec, un tholos grec circulaire avec des colonnes corinthiennes, une coupole. Il est extrêmement ciselé, c'est l'une des caractéristiques également du style de Richard Mick. C'est vraiment de la c'est presque de l'architecture sculptée si vous voulez. Et au centre, bien sûr, vous savez qu'il y avait la statue de Bouchardon qui datait de 1740, l'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule, qui depuis a été changée par une... la statue est partie au Louvre, et donc c'est une copie due à Philippe de Mouchy qui se trouve actuellement à l'intérieur de ce temple de l'amour. Alors comme vous le savez, le temple de l'amour, la reine pouvait le voir depuis la chambre de son appartement du petit Trianon, ce qui explique évidemment les bruits qui ont pu courir sur la reine. Nous commençons déjà à voir un petit peu le contexte. En 1781, la reine fait également construire, sur des modèles qui existaient également auparavant dans différents châteaux, comme à Bagatelle précisément, une grotte avec une cascade enfin pas une grotte, pardon, une montagne avec une cascade. Alors là encore, nous sommes totalement dans l'esprit de la mode du temps. Il faut savoir que la montagne avait toujours été un lieu redouté depuis des temps immémoriaux. C'était un réceptacle de diables, de fantômes, de tout ce que vous voulez. Or, la science du XVIIIe siècle commence à découvrir la montagne. Rappelez-vous, Ferdinand de Saussure, hein, qui gravit le premier le Mont Blanc en 1786. Donc la reine, en construisant sa fausse montagne dans son jardin de Trianon, va dans le sens de la science du temps et dans le sens de la mode du temps. Alors, cette montagne est accompagnée d'un rocher sur le côté, on y reviendra, mais je voudrais d'abord vous lire, puisque cette grotte donne, avec sa cascade, donne sur le petit lac, comme on l'appelle, puisque le grand lac se trouve devant le hameau, hein. Le chevalier Bertin, donc, qui était un poète protégé du comte d'Artois, écrivait dans une élégie intitulée « Les jardins du petit Trianon ». Du haut du belvédère, mon œil au loin s'égare et découvre les bois, la verdure et les flots. Là, parmi les rochers de structure inégale que Neptune a produit d'un coup de son trident, un torrent écumant tombe et roule en grondant, et bientôt lac tranquille au pied des monts s'étale. Vous voyez comme la poésie grandit totalement l'image que l'on peut avoir de ce faux rocher, de cette fausse cascade. Mais en tout cas, ça va totalement dans l'esprit nouveau de l'époque, du retour à la nature, de façon encore une fois à régénérer l'homme si possible. Voilà. Alors, voici la fameuse grotte qui se trouve sur une fausse petite montagne qui accompagne donc le rocher. Alors cette grotte, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre parce que, comme vous savez, il y a au milieu des faux rochers qui la construisent, il y a une petite ouverture qui permet de voir arriver les personnes qui passent sur le chemin menant à la grotte. Donc là encore, beaucoup d'encre a coulé sur ce qu'on a dit, ce que la reine faisait dans la grotte. On n'en sait rien, je ne cesse de le dire dans toutes les conférences et toutes les visites que je fais, on n'a aucune preuve de rien sur les fameux amours de la reine, pas même avec Axel de Fersen. Hein, il faut être bien clair là-dessus. Alors cette grotte est un lieu historique extrêmement important à Versailles, parce que c'est là que se tenait la reine le 5 octobre 1789, lorsqu'on est venu la prévenir que le peuple de Paris marchait sur Versailles. Elle est donc retournée immédiatement au Grand Château, hein, et dès le 6, comme vous savez, elle retournait avec la famille royale à Paris, aux Tuileries, et donc elle n'est jamais plus revenue à Trianon, c'est le dernier lieu qu'elle a occupé, cette grotte. Donc endroit assez émouvant, si vous voulez, pour le souvenir de la reine, bien entendu. Alors voici peut-être l'un des chefs-d'œuvre de Richard Mick, c'est le pavillon du rocher ou belvédère. C'est un pavillon octogonal, comme vous pouvez le voir, très antiquisant, hein, surmonté de frontons et de bas-reliefs, ponctué sur ses entrées donc de sphinges accroupis. Et alors voici l'intérieur de ce belvédère qui domine le petit lac. Là, nous avons affaire vraiment à l'un des chefs-d'œuvre de l'art de la fin du XVIIIe siècle. Toute l'élégance et la délicatesse et le charme de cette époque, qui pourtant danse sur un volcan, hein, on le sait. Voici donc les peintures de Le Riche, Louis-Sébastien Le Riche, qui était un ornementaliste. Alors, il y a des bouquets de fleurs, des carquois, des paniers avec des bouquets. On voit également, sur le côté en bas à droite, un petit écureuil et un petit singe, dans l'esprit des singeries du XVIIIe siècle, bien sûr. Alors, tout cela, toutes ces peintures qui sont faites à la cire, malheureusement, sont assez décolorées. Mais il faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, depuis le milieu du siècle, dans cet esprit de retour à l'Antiquité, on recherchait les techniques de la peinture grecque et romaine, donc justement faites à la cire. Donc il y a eu le peintre Joseph-Marie Vien, qui fut le maître de David en particulier, qui avait fait beaucoup d'études dans ce sens, et donc Le Riche, dans le pavillon du Rocher, donc le belvédère, avait tenté de mettre en pratique la technique de la cire pour la peinture, ce qui explique la décoloration, si vous voulez, parce que c'était absolument pas fixé. La cire ne sèche jamais, comme vous le savez. Hein. Et regardez le dallage de pierre, également de marbre sur le sol, qui est absolument fantastique et qui reprend en fait le modèle de la place du Capitole à Rome. Hein. Le plafond était peint par Jean-Jacques Lagrenet d'un ciel dans lequel voltaient également des amours. Donc c'est là l'un des chefs-d'œuvre de Richard Mick. Et voici donc l'un des sièges que conserve, qui est exposé au Petit Trianon, donc que nous conservons. C'est une série de 8 fauteuils et 8 chaises dessinées par l'architecte Jacques Gondouin être présentées par Marie-Antoinette sous forme d'éléments en cire. Nous en avons quelques-uns dans les collections de Versailles, de ces éléments en cire. La reine les avait acceptés et donc c'est le menuisier François Folliot, qui les a réalisés donc en 1780-81. Donc il y avait toute une série de sièges, c'était une sorte de salon, un relais sur un lieu, pendant un parcours de promenade, si vous voulez, le belvédère. Donc c'est l'un des mobiliers qui passe pour les chefs-d'œuvre de la fin du XVIIIe siècle, hein, c'est indéniable. Malheureusement, bon, c'est assez gracieux sur cette restauration, mais la restauration, sachez-le, est totalement fausse. Hein. Les sièges étaient en fait recouverts de soie qui était totalement drapée, même entre les pieds, si vous voulez, un drapé à l'antique, à la romaine. Donc en fait, il faudrait certainement qu'un jour la conservation de Versailles revoie entièrement la présentation de cette chaise. Bien entendu, elle n'est pas mise en place dans le belvédère parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, donc elle est présentée dans le grand salon de musique du Petit Trianon. Alors voici l'une des grandes fêtes qui eut lieu donc au Petit Trianon. C'est un tableau de Claude-Louis Châtelet, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fut guillotiné, qui a travaillé donc vraiment pour Marie-Antoinette. Donc c'est à l'occasion donc du deuxième voyage de Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, empereur germanique, que ce tableau a eu lieu. On avait illuminé le belvédère de fagots, donc qui évidemment donnait beaucoup de fumée, mais en fait avait totalement dans la nuit, donc donnait des lumières absolument fantastiques. Et Madame Campan, justement, nous dit également que tout l'ensemble du jardin avait été illuminé jusqu'au temple de l'amour. Et voici, je vous lis ce qu'elle écrit. Des terrines cachées dans des planches peintes en verre éclairaient tous les massifs d'arbustes ou de fleurs et en faisaient ressortir les diverses teintes de la manière la plus variée et la plus agréable. Quelques centaines de fagots allumés entretenaient dans le fossé, derrière le temple de l'amour, une grande clarté qui le rendait le point le plus brillant du jardin. Voilà. Donc également, ces festivités avaient eu lieu pour la visite de Gustave III, roi de Suède, qui avait voyagé auprès de Marie-Antoinette sous le nom de Comte du Nord, et donc pour le futur tsar Paul Ier également. Hein. Lors de leur venue, c'était parmi les visiteurs les plus célèbres qui étaient venus voir Marie-Antoinette au Petit Trianon. Alors je voulais également une petite... Trois vers de l'abbé de Lille, une fois ce jardin achevé, semblable à son auguste et jeune déité, Trianon joint la grâce avec la majesté, pour elle il s'embellit et s'embellit par elle. Donc voyez l'esprit flatteur également des poètes du temps envers Marie-Antoinette, jeune déité. Hein. Ce que les révolutionnaires plus tard lui reprocheront évidemment, puisqu'ils en feront une espèce de nymphe, pas très... abordable, si j'ose dire, ils l'accuseront de tous les maux, en fait, tout simplement. Vous lirez tout à l'heure des extraits du procès de Marie-Antoinette, vous verrez ce qu'il en était dit. Alors, le duc de Croy également a écrit sur le jardin de Trianon. Il l'avait bien connu du temps de Louis XV, puisqu'il y venait très régulièrement travailler avec le roi sur la botanique, etc. Et voici ce qu'il écrit en 1780, il est déjà très âgé à l'époque. Je crus être fou ou rêver de trouver à la place de la grande serre chaude du roi, qui était la plus savante et la plus chère de toute l'Europe, des montagnes assez hautes, un grand rocher et une rivière. La reine y faisait finir un grand jardin anglais du plus grand genre, ayant de grandes beautés, quoiqu'il me paraissait choquant qu'on y mêle ensemble tout le ton grec avec le ton chinois. À cela près, la grande montagne des fontaines, le superbe palais de l'amour en rotonde, de la plus riche architecture grecque et des parties de gazon sont au mieux. Hein. Alors pourquoi le duc de Croy parle-t-il de beauté chinoise dans le jardin de la reine? En fait, il y avait un seul élément chinois dans tout cet ensemble, c'était au jeu de bagues qui était au pied au pied du petit Trianon, en direction du petit théâtre de la reine. On y reviendra sur le petit théâtre. Tout simplement, la reine avait accepté qu'on fasse une espèce de galerie chinoise autour de jeu de bagues, dans lequel prenaient place ses invités, tous ses amis, lorsqu'on faisait manœuvrer ce jeu de bagues. Ce jeu de bagues était tout simplement en fait un manège dans lequel il y avait en sous-sol des serviteurs qui le faisaient tourner, et donc les gens qui prenaient place dans les nacelles devaient attraper des queues. Hein. Ça, c'est les dérivés extrêmes, si vous voulez, des carousels du XVIIe siècle, qui en étaient arrivés là, et c'est un peu l'origine de nos manèges de contemporains, tout simplement. Donc là, il y a toute une filiation très amusante également. Hein. Alors, Marie-Antoinette était donc si fière de son jardin. Alors, pardon, excusez-moi, je vous montre maintenant le hameau. Elle était donc si fière de son jardin qu'elle avait donc fait confectionner, comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs recueils d'aquarelles dans lesquels elle montrait toutes les constructions faites par l'architecte Mick. Ces recueils avaient d'ailleurs été faits sous la direction de Mick, hein, lui-même. Alors, les plans des jardins avaient été dressés par l'architecte Baltard, puis par Jean-Thomas Thibault également, qui deviendra célèbre sous l'Empire, et c'est l'architecte Fontaine, qui deviendra premier architecte de Napoléon, ne l'oubliez pas, qui avait dessiné les plans et les élévations des bâtiments, c'est-à-dire le Petit Trianon, le Temple de l'Amour, etc. Donc tous ces recueils, comme je vous ai dit, avaient été offerts à tous les grands invités de Marie-Antoinette. On connaît plusieurs recueils donc, qui avaient été réalisés entre 1780 et 1786. Le premier, bien entendu, était pour la reine elle-même. Hein, il était conservé dans les collections de Versailles, bien entendu. Il y en avait un qui avait été offert en 81 pour Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, un pour le tsarévitch Paul, et donc l'autre pour le Gustave III de Suède. Et alors le dernier exemplaire connu, qui est le plus complet parce qu'il contient précisément cette aquarelle du hameau que je vous montre là, avait été fait pour l'archiduc Ferdinand, frère de la reine, qui était grand-duc de Lombardie, et également son épouse Béatrice d'Est. Voilà. Donc ce recueil-ci, précisément le dernier, a été publié il y a quelques années par M. Arizzoli, que certains ont peut-être connu, qui était notre ancien directeur général ici à Versailles. Hein. Donc voici cette vue générale faite par Châtelet du hameau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors très rapidement, là je vais vous expliquer quelles sont les maisons. Vous avez d'abord évidemment le phare qui donne sur le grand lac que l'on appelle la tour de Marlborough. Au pied de ce phare se trouve la laiterie de propreté. C'est là que la reine dégustait donc les crèmes, les fromages, les laits qu'on lui amenait de la ferme. Derrière, vous avez une vue d'une maison qui a été détruite depuis, c'est la laiterie de préparation. Les crèmes venant de la ferme arrivaient d'abord dans la laiterie de préparation, étaient posées dans les porcelaines de la reine, qui provenaient de la manufacture de la rue Thiroux, propriété de Marie-Antoinette elle-même. Derrière, il y a une autre maison qu'on ne voit pas ici, c'est la grange qui a été détruite par Napoléon en 1810. Vous les voyez, on voit très bien les maisons détruites puisqu'elles sont construites depuis 1932 avec un petit muret sur le sol. Hein. Au fond, il y avait le colombier et la maison du garde. La maison du garde, c'est celle qui est à côté du pont. Passé le pont, on trouve précisément la double construction que nous allons restaurer, enfin que nous sommes en train de restaurer, c'est la maison de la reine. Double construction avec à gauche la maison du billard et à droite la maison de la reine proprement dite. Hein. Derrière se trouve le réchauffoir, c'est-à-dire la cuisine que nous resterons également, hein, la cuisine du hameau. Et sur le côté, vous voyez également le moulin, qui est la dernière construction. Une autre petite construction, encore en arrière, n'est pas visible sur l'aquarelle, c'est le boudoir, qui sera restauré vraisemblablement l'année prochaine également. Et là encore, nous avons tout le mobilier. Alors, le problème du hameau, c'est que effectivement, si vous voulez, une fois passé tout cet ensemble de constructions du jardin de la reine, le jardin anglo-chinois de la reine dont je viens de vous parler, le regard n'était accroché par rien. Il s'en allait totalement dans la nature, dans les vastes prairies qu'il y avait là, ou les bois que la reine avait fait dessiner par Richard Mick, etc. C'était pas dans l'esprit français de ne pas clore une perspective par un monument qui attire le regard ou dirige la pensée vers un point bien précis. D'ailleurs, le duc de Croy le disait bien dans son texte, quelque chose n'allait pas sur l'achèvement du jardin qui se terminait donc par une sorte de jardin champêtre dans les champs, si vous voulez. Et donc la reine décida en 1782-83 de faire construire précisément le hameau qui était le point divergent par rapport au petit Trianon. Le petit Trianon était le point à partir duquel tout le jardin de la reine divergeait. Et le hameau en était au contraire le réceptacle à l'opposé, avec la vision totalement opposée à celle du petit Trianon. D'un côté le luxe royal, le château, de l'autre côté l'aspect rustique avec précisément le hameau. Donc il faut bien lire le hameau en fonction de tout le jardin et en fonction du petit Trianon également. Alors si l'on vous parle du hameau, il faut aussi parler évidemment du petit théâtre. On n'en a pas encore parlé, c'est une des constructions de Richard Mick, bien entendu. Un bâtiment extrêmement simple à l'extérieur, simplement deux colonnes avec un fronton sculpté par le sculpteur Deschamps, quelque chose de très simple. L'intérieur, au contraire, est quelque chose d'absolument merveilleux, absolument minuscule, puisque c'est un théâtre privé, essentiellement fait pour Marie-Antoinette et ses amis, c'est-à-dire la princesse de Lamballe, le comte d'Artois, etc., qui venaient jouer parfois sur scène d'ailleurs, et puis bien sûr tout l'entourage direct de Marie-Antoinette qui prenait place dans la salle. Donc ce qu'il subsiste du théâtre, ce sont toutes les dorures d'une part, et surtout les deux grands candélabres de femmes antiques qui sont l'œuvre également du sculpteur Deschamps. Alors si je vous parle du petit théâtre, c'est qu'il a eu un rôle extrêmement important dans ce retour à la paysannerie que souhaitait également Marie-Antoinette en son château. Parce qu'on y avait joué des pièces de Favart, on y avait joué des pièces de Sedaine comme Rose et Cola, on y avait joué également le Devin de Village de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'était des pièces dans lesquelles même la reine elle-même montait sur scène et jouait des rôles. Elle a joué le rôle de Colette dans Rose et Cola, par exemple. Alors bien entendu, il n'y avait pas que cet aspect de théâtre, de comédie bourgeoise, comme on les appelait à l'époque, théâtre paysan également d'un certain côté. On a joué également des opéras dessus. Vous savez que la reine avait été l'élève du musicien Gluck en Autriche, qui était le tenant et le réformateur de l'opéra allemand, quelque chose d'assez rigide déjà, qui annonçait tout le grand art allemand du 19e. Et donc elle avait voulu soutenir Gluck contre le grand tenant de l'opéra italien avec toutes ses arias très célèbres, qui était Piccini. Donc il y a eu des musiques de Gluck jouées sur le petit théâtre, bien qu'il y ait eu aussi quelques Piccini malgré tout. Mais bon, la reine a participé grâce à son petit théâtre à la fameuse querelle de ce qu'on appelle les Gluckistes et les Piccinistes dans les années 1778-80. Voilà, donc il faut bien comprendre donc, que le petit théâtre a eu un rôle également dans ce retour à cette paysannerie que souhaitait la reine et qu'elle va enfin véritablement mettre en pratique lorsqu'elle va construire son hameau. Alors voici également comment vivait la reine précisément lorsqu'elle était au petit Trianon, dans ses jardins. Alors voici un tableau peint par Elisabeth Vigée-Lebrun. Vous savez que Madame Vigée-Lebrun était devenue le peintre quasiment attitré, en tout cas préféré de Marie-Antoinette. La première fois qu'elle a approché la reine, cette jeune femme, elles avaient exactement le même âge, elles sont nées toutes les deux en 1755. C'est un tableau, le grand tableau royal de la reine en grande robe de cour, et on sent très bien une immense distance entre la reine et sa jeune femme peintre qui est face à elle. Et puis par la suite, il y a des sortes de liens d'amitié qui se tissent entre elles. Madame Vigée-Lebrun a écrit ses souvenirs et par exemple elle cite un moment où elle avait renversé toutes ses couleurs sur le sol devant la reine. La reine s'est précipitée pour les ramasser. Vous imaginez comme la reine dérogeait à sa fonction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Antoinette, dans son château du Petit Trianon, n'était pas reine de France. Elle était simplement châtelaine, recevant ses amis. C'est la raison pour laquelle elle s'habillait, comme dans ce tableau-ci de 1783, avec une simple gaule, c'est-à-dire une robe de mousseline, et portant ce fameux chapeau de paille que Madame Vigée-Lebrun avait découvert lors d'un voyage à Anvers, où elle avait vu un tableau de Rubens représentant sa jeune femme portant un chapeau de paille. Ça l'avait beaucoup inspirée. Elle a peint plusieurs dames de l'entourage de Marie-Antoinette avec ce chapeau de paille. Ce tableau a été exposé au salon. Aussitôt, ça a été un tollé général, parce qu'on estimait que la reine dérogeait à sa fonction. Elle n'était pas reine de France sur un tableau comme celui-ci. C'était une femme à la mode, légère, voilà. Donc les bruits commençaient vraiment dans les années 1780 à s'attacher à la reine. Elle n'était pas encore critiquée pour ce qu'elle faisait, elle était critiquée parce qu'elle dérogeait à sa fonction de reine. On ne remettait pas encore à cette époque en cause la notion royale. Et ça, il faut bien le comprendre encore, ça viendra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens subversifs à l'époque qui travaillaient en profondeur, le duc d'Orléans, il y avait déjà Marat, il y avait tous ces gens-là qui commençaient à salir et à saper les fondements de la société royale. Alors Madame Vigée-Lebrun a répondu à ce tableau qui a fait un tollé, par celui-ci qui est beaucoup plus célèbre, qui est exposé au Petit Trianon, où la reine est totalement dans la même position, bien entendu, mais en fait a retrouvé beaucoup plus de dignité, puisque là elle porte une robe de soie, assez simple malgré tout, et ce tableau est réputé pour avoir été peint dans les jardins du Petit Trianon. Alors le hameau, puisque nous en venons maintenant définitivement à lui, il faut bien comprendre qu'il a été conçu donc dans un goût de mode, un goût de retour à la nature, à la paysannerie, mais il a été conçu également dans un but qu'il n'est pas assez mis en avant à mon sens, dans le but de l'éducation du dauphin. Il ne faut pas oublier, comme je vous disais tout à l'heure, que tout le mouvement des physiocrates, avec François Quesnay en particulier, voulait remettre en avant le travail de la paysannerie. C'était encore une fois le début des revendications de l'égalité entre les hommes, etc., dont je vous parlais tout à l'heure de Jean-Jacques Rousseau, etc. Cette éducation avait été également très mise en valeur, rappelez-vous, par Jean-Jacques Rousseau dans L'Émile, et le sous-titre de L'Émile précisément, c'est « De l'éducation ». Or, Jean-Jacques Rousseau valorisait justement le travail des paysans qui était selon lui extrêmement digne puisqu'il nourrissait les hommes, et il fallait que toute éducation baigne l'enfant dans la nature et dans le travail des champs. Donc la reine avait voulu aussi que son hameau soit conçu dans un but éducatif, de formation pour le rôle du futur roi de France, le dauphin, né en 1781, comme vous le savez. La reine et Louis XVI ont eu 4 enfants, on ne le rappelle pas assez souvent. Une madame royale née en 1778, qui sera la seule survivante à la Révolution française, qui deviendra duchesse d'Angoulême sous la Restauration. Il y a eu donc le premier dauphin né en 81 qui mourra le 4 juin 1789, donc au tout début de la Révolution, ce qui a été un drame évidemment pour la famille. Il y a eu le deuxième dauphin, donc le plus célèbre de tous, c'est le futur Louis XVII, mort à l'âge de 10 ans. Il est né en 85, mort en 95 au Temple. Et il y a eu enfin Madame Sophie, une petite fille qui est morte à l'âge de 1 an en 1787. Là aussi, ça a été un drame pour Marie-Antoinette, qui a d'ailleurs fait peindre à cette occasion un tableau par Madame Vigée-Lebrun, où on la voit entourée de ses enfants avec un berceau vide qu'elle montre. Donc c'est le berceau de sa petite fille, Madame Sophie. Voilà. Donc je vous disais que ce hameau donc, a été vraiment conçu dans un but d'éducation. Et donc voici le hameau tel qu'il se présente de nos jours, avec cette pêcherie au pied du Grand Lac, surmontée du phare, la tour donc, qu'on appelle la tour de Marlborough. Alors la pêcherie, comme vous pouvez voir, en fait est une des rares constructions du hameau qui soit en bossage de pierre, à l'imitation des monuments romains tels qu'on en trouve en particulier dans les tableaux de Joseph Vernet ou plus anciennement également de Claude Gelée dit le Lorrain, tous ces tableaux de marine du XVIIe et du XVIIIe siècle. La tour de Marlborough elle-même donc, porte un nom qui fait référence à un général anglais, le duc de Marlborough, grand adversaire de Louis XIV, mort en 1722, et les Français évidemment s'étant réjouis avaient créé une chanson à cette occasion, qui avait été remise à la mode en 1781 par Beaumarchais dans sa comédie, donc le Barbier de Séville précisément. Hein. Donc elle était devenue à la mode, cette chanson, au point d'ailleurs que le coiffeur Léonard avait fait des coiffures à la Marlborough. Hein. De même qu'il y avait des coiffures avec des navires pour la gloire de la marine française pendant la guerre d'Amérique. Il y avait également des coiffures avec des montgolfières. C'était assez de la folie. D'ailleurs, on a des exemples de dames disant que les coiffures étaient tellement démesurées que certaines se tenaient les cheveux en se penchant à la tête de la diligence ou des carrosses, si vous voulez. Voilà, c'est des choses assez amusantes de l'époque, de la mode du temps, ce qui montre bien également l'artifice de cette société aristocratique, malgré tout. Hein. Donc cette tour de Marlborough, cette chanson du duc de Marlborough, Marlborough s'en va en guerre, était chantée également au dauphin, donc le premier dauphin, hein, par Madame Poitrine, c'était son nom, qui était une bourguignonne, la nourrice du dauphin. Alors, je vais vous citer un petit mot amusant sur cette Madame Poitrine, si je la retrouve. Voilà, oui, c'est le marquis de Bombelles dans ses mémoires qui nous explique que c'était une franche paysanne, femme d'un jardinier de Sceaux, qui a le ton d'un grenadier et jure avec une grande facilité. Donc on imagine quand même que dans l'entourage de la reine, il y avait des gens un peu particuliers malgré tout. Hein. Donc voilà, c'est en tout cas le nom de la chanson de Marlborough est resté donc attaché à cette tour. Derrière la tour, il y a cette fameuse laiterie de propreté. Alors sachez qu'à l'origine, cette laiterie de propreté était la pêcherie. Et en fait, lorsque l'on a construit en partie la ferme, la pêcherie a été déplacée au pied de la tour et cette maison donc est devenue la laiterie de propreté. C'est donc dans cette maison que la reine prenait les laitages sur des tables de marbre. Il y avait un petit ruisseau également qui coulait au milieu de cette maison qui venait donc de la ferme puisqu'il y avait des sources également dans tout le coin du hameau. Alors regardez également, vous voyez des contreforts surmontés par des bustes. Ces contreforts ont été placés par Napoléon en 1810, au moment où il restaure le hameau pour l'impératrice Marie-Louise. Et en fait, on avait décidé de détruire plusieurs maisons, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'elles étaient vraiment en trop mauvais état. Celle-ci a été sauvée in extremis grâce à ces contreforts, et c'est sous la restauration, on n'en est pas très sûr, mais on le pense, que les bustes ont été placés pour décorer un petit peu plus ces constructions. Alors les constructions du hameau sont vraiment d'une légèreté incroyable. C'était en fait une fantaisie qui n'était peut-être pas faite forcément pour durer, essentiellement faite pour la reine. C'est une espèce de blocage de pierre très poreux, avec une humidité et terrible. Et à l'intérieur des maisons, il faut savoir que ces maisons sont posées directement sur le sol, sans vide sanitaire, sans cave. Donc vous imaginez qu'il y a une énorme humidité. Ça a été l'un des grands paris de la restauration de la maison de la reine, précisément. Hein. Alors cette tour de Marlborough, oui, dont je vous parlais tout à l'heure, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, elle, c'est pas un exemple isolé à l'époque dans les constructions de ces jardins anglais ou de ces hameaux. Voici en particulier la tour de Gabriel, donc d'Ermenonville, qui a été détruite malheureusement, mais qui passe pour avoir été l'un des modèles de Marie-Antoinette lorsqu'elle a conçu son hameau. Et rappelez-vous que la reine était allée également voir le marquis de Girardin à Ermenonville. Alors voici pour les laiteries. La reine avait déjà des laiteries. Voici l'une des plus célèbres, c'est celle de Rambouillet, que vous connaissez sans doute. C'est un endroit, si vous ne le connaissez pas, vraiment allez-y, c'est une merveille. L'extérieur, et voici l'intérieur. Là, c'est quelque chose qui est absolument unique, très sincèrement beaucoup plus beau que la laiterie de Trianon, hein. Donc avec tout ce dallage de pierre. Regardez tout au fond cette grotte avec la sculpture de Julien qui représente Amalthée, donc avec une chèvre. Et donc là également, à l'origine, il y avait toute une rivière qui coulait dans cette laiterie. Les laiteries sont très à la mode à l'époque, hein. Il y en a donc à Chantilly, il y en a au Rincy également, chez le duc d'Orléans, etc. On trouve des laiteries un peu partout. D'un point de vue, de conception du hameau, Marie-Antoinette n'a pas innové. C'est plutôt par le côté pittoresque des maisons, et puis évidemment la conservation des lieux de nos jours par rapport à beaucoup de hameaux qui sont partiellement détruits, en tout cas, qui font que tout cela est beaucoup plus joli de nos jours, à Trianon. Alors voici le colombier. Le colombier donc qui subsiste en partie, juste à côté du petit pont. C'est là que la reine avait logé son gardien qui s'appelait Jean Bercy. Hein. Il disposait également d'une autre maison située en arrière qui est la maison du garde. Donc il y avait un gardien à demeure et pour la reine, au service de la reine, donc à Trianon. Donc ces maisons sont toutes couvertes de chaume, bien entendu. On connaît évidemment tous les artisans qui ont fabriqué qui ont participé à la construction de ces maisons. Et voici donc bien entendu la maison de la reine, avec à gauche la maison du billard, à droite la maison de la reine proprement dite. Sous l'Empire, ces maisons deviendront la maison du bailliage à gauche et la maison du seigneur à droite. Et c'est donc tout cet ensemble que nous reconstruisons, enfin que nous restaurons. Alors voici quelques objets que nous conservons des collections de Marie-Antoinette qui malheureusement avaient été vendues à partir de 1795 dans les lieux du hameau. C'est Charles de la Croix, le père d'Eugène de la Croix, le fameux peintre qui a présidé, puisqu'il était conventionnel, qui a présidé aux ventes des collections de Trianon. Hein. Donc nous avons quelques chaises dans les collections de Versailles. De la salle à manger de la reine au rez-de-chaussée de sa maison, donc des œuvres de Georges Jacob, bien entendu, puisque ce sont toujours les mêmes artisans qui ont travaillé pour la reine à Trianon, enfin au hameau. Alors voici attribué à Pierre-Philippe Thomire, donc le grand bronzier de la fin du XVIIIe siècle, le feu à décor de bouc, donc qui se trouvait dans le salon du premier étage de la maison de la reine. Regardez la finesse des objets. Vous verrez tout à l'heure les objets de Marie-Louise, je ne vous dis pas, vous jugerez hein, de la qualité. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'objets de Marie-Antoinette pour avoir remeublé dans l'état de la reine. Alors voici une petite table de Risner également, petite table de bureau acquise en 2011, comme l'indique le numéro d'inventaire. Voici qui se trouvait également dans le grand salon de l'étage. Vous voyez la finesse des bronzes également. Alors ce mobilier était qualifié de rustique à l'époque. Hein. Oui. Alors voici l'extérieur du réchauffoir. Vous voyez la maison de la reine à gauche dont on voit la galerie, hein, tout en haut avec son colombage. Donc le réchauffoir qui est la cuisine en fait du hameau. Et sur le côté à droite, ce bâtiment, c'est la salle des valets de pied en fait, qui deviendra l'office sous l'Empire. Donc cet ensemble est également restauré actuellement. Hein. Voici l'intérieur du réchauffoir. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une pièce qui monte jusqu'à la toiture, hein, absolument gigantesque, peinte en couleur de fausses pierres, de fausses coupes de pierre. Il y avait un four à pain et sur le côté nous allons également installer une rôtissoire, telle qu'elle est décrite dans les inventaires, puisque nous en avions une dans les collections de Versailles. Voilà, donc là, vous voyez, c'était avant restauration, la cheminée est un peu effondrée. En raison de l'humidité, parce que cette maison avait déjà été restaurée en l'an 2000. Alors voici la maison du boudoir qui est un petit peu en arrière à droite de la maison de la reine. C'est une maison qui, elle, est à peine plus saine que les autres parce qu'elle a cette chance d'être surélevée sur un perron. Elle est absolument minuscule à l'intérieur, mais nous avons la chance d'avoir tout le mobilier de 1810 de Marie-Louise. Et on connaît parfaitement le tissu. Sur le tabouret de pied est encore conservé le tissu de 1810, donc il sera restauré naturellement. Donc c'était un lieu où, bien entendu, la reine venait s'isoler avec un ou deux amis pour discuter, pendant que les autres jouaient à différents jeux au premier étage de la maison de la reine. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, oui, c'est que le hameau est conçu comme un château éclaté en plusieurs maisons. Les pièces communes sont au rez-de-chaussée, pièces du billard à gauche, salle à manger à droite, et les beaux salons sont au premier étage. Donc il y avait une antichambre des nobles, il y avait un cabinet de trictrac et un grand salon, et au-dessus de la du billard, il y avait un petit appartement privé pour la reine, entièrement tendu de soie, dont on ignore d'ailleurs les décors. Donc cet appartement, bien sûr, Marie-Antoinette ne l'a jamais occupé. On sait qu'elle revenait systématiquement dormir au Petit Trianon, qui est situé à 300 mètres, si vous voulez, hein, bien sûr. Et puis pour finir, voici le moulin. Donc cette jolie maison qui actuellement est occupée par les jardiniers, qui était l'une des plus luxueuses du temps de Marie-Antoinette. Il y avait des très belles cheminées de marbre, ce petit cabinet également, qui était encollé de papier peint, donc chose absolument nouvelle également à l'époque. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait c'est Hubert Robert, le peintre, qui avait donné les modèles donc, de ces constructions, inspirées de la Normandie, bien sûr, le Pays d'Auge en particulier. Et en fait, pour Marie-Antoinette, on avait donné des modèles construits en plâtre, en bois, en carton, de façon à ce que la reine puisse juger de l'effet recherché. Donc certainement, on avait tout amendé, et malheureusement, on ne connaît plus du tout les modèles fournis par Mick et par Hubert Robert pour que la reine puisse juger de l'effet du hameau. Alors voici la dernière construction du hameau, commencée en 84, vers la fin de la construction donc de l'ensemble du petit village lui-même, si vous voulez. C'est la ferme donc qui a été entièrement reconstruite, puisque rasée en partie par Napoléon. Donc elle était marquée par un espèce de grand portail en arc de triomphe. Hein. Tous les services se trouvaient de l'autre côté, vers la porte et les champs, si vous voulez, et toutes les jolies façades se trouvaient au contraire du côté du village, de façon à ce que la reine puisse les voir. Alors, elle avait fait venir Marie-Antoinette, il est arrivé en juin 1785, un bouvier venu de suite qui s'appelait Valérius Bussard et qu'on appelait Vali Bussard, en fait, de son vrai nom. Sa femme également était paysanne. Alors il y avait tout un ensemble, il y avait une cochonnerie comme on disait, il y avait une petite ferme pour les chèvres et on sait que Madame Royale en particulier était très intéressée par les chèvres, elle avait un petit carrosse tiré par des chèvres comme le dauphin, d'ailleurs rappelez-vous qu'on en avait un qui était exposé il n'y a encore pas si longtemps au Petit Trianon. Il y avait beaucoup de poules et c'est justement Madame Bussard qui nourrissait les poules tous les matins pendant que Vali Bussard lui allait traire les vaches parce qu'un peu plus loin il y avait véritablement des champs et c'était une véritable exploitation agricole. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'origine il y a deux maisons que je ne vous ai pas montrées puisque détruites par Napoléon en 1810, c'est la grange en particulier qui était une véritable grange à l'origine. Mais lorsque l'on a construit la ferme, bien entendu, on a conçu une grange à l'intérieur de cet ensemble agricole. Et donc, la grange du village du hameau est devenue, elle, au contraire, une salle de bal qui était carrelée sur le sol. Et donc, c'est là que la reine pouvait donner des bals lorsqu'elle venait au hameau, dans les soirées, etc. On n'a pas beaucoup de détails, d'ailleurs, sur les soirées menées par la reine. C'était un lieu tellement intime qu'on a peu de témoignages, finalement. Hein. Sauf sur le côté esthétique, je vous ai lu plusieurs extraits. Tout le monde parle un peu du côté esthétique. Alors voici, nous en arrivons maintenant. Je suis peut-être un peu long, non ? Je ne sais pas. Le hameau sous la Révolution. Alors je voulais vous lire le 14 octobre 1793, Martial Herman, qui était le président du tribunal révolutionnaire, Fourquier-Tinville étant l'accusateur public, comme vous savez, voici les questions qu'il faut poser à la reine. N'avez-vous pas abusé de l'influence que vous aviez sur votre époux pour en tirer des bons sur le trésor public? Jamais. Où avez-vous donc pris l'argent avec lequel vous avez fait construire et meubler le petit Trianon dans lequel vous donniez des fêtes dont vous étiez toujours la déesse? C'était un fonds que l'on avait destiné à cet effet. Il fallait que ce fonds fût conséquent car le petit Trianon doit avoir coûté des sommes énormes. Il est possible que le petit Trianon ait coûté des sommes immenses, peut-être plus que je ne l'aurais désiré. On avait été entraîné dans les dépenses un peu à peu. Du reste, je désire plus que personne que l'on soit instruit sur ce qui s'y est passé. Voilà. Donc voici le passage concernant Trianon du procès de la reine pendant la terreur. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que Marie-Antoinette avait été de toute façon accusée par avance. Le procès a eu lieu sur 2 jours et elle a été condamnée immédiatement. Ces deux avocats, Tronson du Coudray et Chauveau-Lagarde, n'ont eu absolument aucun accès au dossier. La reine a été immédiatement condamnée à mort et exécutée. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que parmi les jurés du tribunal révolutionnaire, face à Marie-Antoinette, il y avait Claude-Louis Châtelet, le peintre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait tous ses livres d'aquarelles. En fait, David, le peintre, donc le grand peintre de l'époque, était quelqu'un qui s'est absolument vengé envers tout le système de l'Ancien Régime, au point qu'il est allé chercher tous les gens de l'entourage des principales personnes auxquelles il en voulait personnellement, qu'il a fait nommer juré au tribunal révolutionnaire. C'est ainsi que le peintre Gérard a été nommé juré au tribunal, le peintre Topino Lebrun, le dessinateur Jean-Louis Prieur, et donc Claude-Louis Châtelet également a été nommé, et il a participé à l'assassinat de la reine, tout simplement. Hein. Alors, et parmi les autres victimes également de tout l'entourage de la reine pendant la terreur, il y a eu bien sûr Madame de Lamballe, comme vous le savez, massacrée en septembre 1792, mais il y a eu Richard Mick, l'architecte, qui a été guillotiné. Il y a eu Bonnefoy Duplan également, qui a été emprisonné, Hubert Robert qui a été emprisonné, qui nous a laissé des tableaux d'ailleurs. Donc vraiment, il y a eu une sorte de vengeance, tout le monde s'est focalisé sur la reine, on lui a fait porter tous les maux de la terre, et évidemment, comme vous savez, on l'a traîné même dans la boue, puisqu'on l'a même accusé d'avoir été incestueuse avec ses enfants, et là, elle a pris à témoin les femmes qui se trouvaient dans la salle, et même elles ont été indignées par les accusations de Fouquier-Tinville. Alors, pendant la Révolution, le hameau a évidemment été occupé par des locataires un peu indélicats, c'est-à-dire des squatteurs, pour tout dire. Donc, ce qui fait qu'au sortir de la Révolution, il était dans un piteux état. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Napoléon a été obligé de raser certaines maisons. Elles étaient complètement en ruine. Sur ce tableau de Vallart, Joseph Vallart, on voit d'ailleurs la toiture du moulin sur la droite qui est complètement enfoncée. Hein. On voit également que de la verdure a poussé absolument partout sur la maison. Vous voyez, le peuplier est absolument démesuré qui poussait au milieu de l'escalier hélicoïdal. Alors ça, c'est un drame permanent. Hein. Il faut bien le dire aussi que mettre un peuplier au milieu de l'escalier, forcément, toutes les feuilles mortes, l'humidité, la pluie, le bois pourri en permanence. Donc c'est un drame pour Versailles. Il faut sans cesse le reconstruire. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, le petit Trianon et le hameau avaient été confié également à un tavernier qui s'appelait Langlois en 1796. Et donc le petit Trianon était devenu un hôtel-restaurant pendant la Révolution. Et on dansait dans les jardins de Trianon tous les décadis. Le décadis, c'était le dixième jour de la semaine des révolutionnaires, une sorte de dimanche férié, si vous voulez. Donc on distribuait également des boissons dans le pavillon français des jardins, etc. Donc ça a été un lieu sur lequel les rancœurs révolutionnaires se sont vraiment acharnés, le jardin de Trianon. Et donc on a des témoignages en 1802, au moment de la paix d'Amiens, de deux Anglais qui sont venus au petit Trianon et qui y ont dormi Donc c'était ces personnes s'appellent, attendez, je vais retrouver leur nom. Deux petites secondes, excusez-moi. Je ne sais plus où c'est. Ah oui, Henry Reddy Bjork et Sir John Dean, voilà, qui ont écrit des mémoires dans lesquelles ils donnent des détails un petit peu sur l'état de Trianon, qui n'est pas brillant d'ailleurs. Et donc il y avait des chambres un peu partout dans le château lui-même. Et surtout, alors, le hameau est totalement détruit, les lacs sont totalement asséchés, on les a mis en culture. Le dallage du temple de l'amour est totalement soulevé. Donc il va y avoir un énorme travail de restauration lorsque Napoléon va devenir empereur en 1804. Alors en 1804-1805, alors qu'il donne le petit Trianon à sa sœur Pauline Borghèse, Napoléon se désintéresse totalement du hameau. Il faut attendre 1810 pour que on regarde à nouveau pour une éventuelle restauration. Vous savez que le 15 décembre 1809, Napoléon a divorcé de Joséphine, et donc dès le mois de mars, il épouse l'impératrice Marie-Louise, qui est une petite nièce de Marie-Antoinette. Elle aussi est une Habsbourg-Lorraine, donc. Et donc, d'abord, il a besoin d'un nouveau château, puisqu'il a laissé Malmaison. Donc à l'impératrice Joséphine, il a besoin d'un nouveau domaine de campagne, et son dévolu va se jeter sur le Grand et le Petit Trianon. Le Petit Trianon sera entièrement remeublé pour Marie-Louise, de même que le hameau. Simplement, le hameau est en tellement piteux état que l'on fait appel à l'architecte du domaine de Versailles, qui s'appelle Guillaume Trepsat, qui le 6 février 1810 va donner un rapport tendant à détruire certaines maisons qui ne peuvent absolument pas être conservées tellement elles tombent en ruine. Donc c'est la laiterie de propreté, de préparation, c'est la grange, c'est également la maison du garde qui sera reconstruite beaucoup plus tard, et c'est une grande partie de la ferme également. Donc tous les squatteurs évidemment vont être mis à la porte par Napoléon. Et en 1811 vont commencer les travaux de restauration du hameau pour les besoins de Marie-Louise. Alors voici l'intérieur tel qu'il existait encore dans les années 1940-1950. Le hameau n'avait absolument pas bougé jusqu'alors. Et vous voyez les grandes tentures de soie qui dataient de 1811, mises en place pour Marie-Louise, étaient toujours en place. Malheureusement, nous les conservons encore à Versailles, mais entre-temps, elles ont été un peu vandalisées. Donc, on verra si plus tard, on peut les présenter dans différents endroits de Trianon. On verra, on a un projet, mais rien n'est encore sûr. Quoi qu'il en soit, ces grandes tentures ont été entièrement refaites pour les besoins de la restauration. Donc ça, c'est le grand salon jaune du premier étage. Vous voyez que le lustre forme ancienne dit l'inventaire. Donc un lustre du XVIIIe siècle. Voici les fameuses soieries qui sont l'œuvre de Antoine Vauchelet, qui est un artiste qui travaillait en fait avec des soyeux et qui avait mis au point un système de peinture sur soie, peinture à l'huile sur soie. Donc voici tout ce décor du grand salon jaune que l'on va pouvoir bientôt remettre en place au premier étage dans le salon de la maison de la reine. Donc décor à l'antique total, comme vous pouvez le voir, des femmes dans l'esprit pompéien, des amours, des oiseaux, des visages à l'antique. Évidemment, les patères qui soutiendront les rideaux dans la restauration auront également des visages vus de face comme cela, de façon à pouvoir créer toute une harmonie de décor dans l'ensemble de cette pièce. Voici le guéridon livré par Jacob Desmalter de l'ameublement de ce grand salon jaune. C'est la seule pièce que nous conservions encore dans cet ameublement. Malheureusement, tout le mobilier, canapé, fauteuil, chaise, etc., a disparu, n'a pas été identifié dans nos recherches. On a demandé au Mobilier National dans différents endroits, on n'a pas retrouvé. On a pu trouver un équivalent extrêmement bien grâce à une donation que nous avions eue en 1965 par la duchesse de Massa, qui avait donné tout un ensemble mobilier tout à fait cohérent. Alors sachez que ce guéridon sera donc entouré de ce mobilier Massa, entièrement recouvert de velours de soie jaune. Les rideaux du salon seront également de couleur bouton d'or jaune, donc la pièce sera l'une des grandes révélations, je vous l'assure, de la restauration du hameau. voici la pendule qui se trouvait sur la cheminée de ce grand salon jaune. Certains la connaissent certainement pour l'avoir vue dans le salon du déjeun du Grand Trianon. C'est une pendule qui a été conçue avec des éléments de marbre d'un service de table offert par le roi d'Espagne Charles IV en 1807 à Napoléon. Ce surtout était arrivé dans différentes caisses et malheureusement plusieurs éléments avaient été brisés lors du voyage. C'est donc le grand maréchal du palais de Napoléon, Duroc, le général Duroc, qui avait demandé à ce qu'on réutilise les éléments qu'on pouvait sauver pour en faire des pendules, dont celle-ci qui fut placée au hameau en 1811. À l'opposé donc de son grand salon jaune qui se trouve au-dessus de la salle à manger dans la maison de la reine, il y avait dans un petit appartement au-dessus de la salle du billard dans la maison du billard. Petit appartement privé autrefois de Marie-Antoinette, devenu l'appartement privé de Marie-Louise. Et voici le mobilier livré par Jacob Desmalter en 1811. C'est un mobilier en bois d'amarante, donc extrêmement précieux. Doré directement sur le bois, ce qui est extrêmement rare. Donc c'est un mobilier avec ce guéridon qui était déposé à la Chambre des députés qui a pu nous le restituer, et donc nous l'avons fait restaurer. Et donc cette console et ce guéridon sont entourés par ce mobilier-ci, toujours de Jacob Desmalter, toujours en amarante. Donc il y a des bergères et des fauteuils qui sont absolument semblables. Je vous défie de les reconnaître, c'est simplement à peu près 5 cm dans la haute, de plus pour les bergères par rapport aux fauteuils. Donc c'est trois fois rien. Regardez cette soierie, c'est un damas au liseron, donc blanc sur blanc, et la pièce entièrement du petit salon privé de l'impératrice Marie-Louise était entièrement couverte de ce damas blanc. Là aussi, ce sera, à mon avis, l'une des très belles pièces du hameau, d'autant qu'on a la chance d'avoir l'ensemble du mobilier pour cette pièce. Il y avait également, dans la petite pièce à côté, qui était la chambre à coucher autrefois de Marie-Antoinette, puis de Marie-Louise, une petite table, toujours de Jacob Desmalter, en bois de citronnier, chose tout à fait rare à l'époque, hein. C'est une table vide-poche, vous voyez derrière, il y a comme un creux sur le dessus de la table. Et quand on tirait le tiroir, c'était une écritoire. Elle est en parfait état, déposée par le mobilier national, donc elle sera remise à sa place. Et le lit lui-même de cette pièce, j'en reviendrai sur le lit. Dans cette pièce, il y avait également une chaise longue. Regardez la forme, extrêmement moderne, quasiment les années 40, hein, toujours de Jacob Desmalter. Elle était à l'origine recouverte d'un cannetillé de soie vert d'eau, donc très pâle. Malheureusement, cet objet se trouve au Mobilier National qui, en 1998, avait demandé à un artiste contemporain, Paul Armand Jette, de la recouvrir d'un tissu moderne. Donc vous voyez ces fleurs de nénuphar qui semblent flotter sur l'objet. On n'a évidemment pas le droit de transformer le tissu, hein, bien sûr, et à tout moment le Mobilier National se réserve le droit de reprendre l'objet pour l'exposer le temps d'une exposition. Quoi qu'il en soit, il sera remis en place, bien entendu, dans le hameau. Alors voici le lit. Je vous montre à droite une présentation pour prendre les mesures, les dimensions, etc., que nous avions fait avec le tapissier, M. Chauveau, de cette chambre du hameau. Voilà, donc il y aura une couronne de lit que nous avons refaite parce que nous ne l'avions pas retrouvée. Le tout en soie d'une faille vert d'eau, également extrêmement pâle. Et à gauche, vous avez le véritable lit du hameau remis en état, vous voyez, d'une couleur jaune que l'on a repeint à base de curcuma, la racine de curcuma qui est très jaune, parce que l'inventaire nous dit bien effectivement que le lit était peint à l'imitation du bois de citronnier de la petite table que je vous ai montré auparavant. Voilà. Et donc le tout sera avec de grands rideaux verts d'eau. Alors il y a des meubles beaucoup plus simples également, mais qui sont extrêmement précieux dans les collections du hameau. Ce sont des sièges qui sont pour des petits cabinets, l'ancienne antichambre des nobles de la reine, l'ancien cabinet de Trictrac, etc., de Jacob des Maltaires, qui sont simplement en bois de noyer, très sobre, mais sur lesquels nous avons la chance d'avoir pu conserver le tissu d'origine de 1811. Donc il était exclu que nous le retirions, bien entendu, pour le refaire, et il a été entièrement restauré. Le résultat est plutôt passable, comme vous voyez, le coup d'œil est plutôt bon. Ce sont des pièces extrêmement sobres, donc nous remettrons ces objets restaurés en place. Voici également une autre série, non seulement les fauteuils verts, mais également les petites chaises jaunes, extrêmement décolorées, sur lesquelles nous avons mis une crépeline, pour raviver les fleurons, si vous voulez. Toujours de Jacob des Maltaires. Regardez, Jacob des Maltaires est quand même un artiste absolument étonnant qui est capable de faire le grand lit de Napoléon en bois doré du Palais des Tuileries et qui est capable de faire ça. Il a tout inventé. Enfin, c'est la dynastie des Jacob qui sont absolument extraordinaires. Alors voici ce qui s'est passé au hameau le 25 août 1811, c'est la fête de la Saint-Louis, c'est-à-dire le patron de Marie-Louise, que Napoléon appelait Louise, tout simplement. Donc, pour clore les festivités de la naissance du roi de Rome, qui avait eu lieu en avril précédent, Napoléon avait organisé une immense fête dans tout le domaine de Trianon. Sachez que le domaine de Trianon, en 1810, avait été séparé du domaine de Versailles. C'était deux domaines totalement séparés l'un de l'autre, qui avaient leur autonomie, leur directeur totalement indépendant, aussi bien que Compiègne et Fontainebleau, si vous voulez. Et c'est en 1910 simplement que le domaine de Trianon a été rattaché à nouveau à Versailles. Donc tout l'ensemble du domaine de Trianon avait été mis à contribution pour ces festivités du 25 août 1811. Et donc nous avons la chance d'avoir dans les collections du château de Hazay-le-Ferron cette gouache qui est de Gadebois, un artiste très, très peu connu, montrant l'empereur et l'impératrice au premier plan, au hameau, vous voyez, et sur le côté on voit des membres de la maison de l'empereur en habit vert à galons dorés. Donc le hameau venait tout juste d'être terminé. Alors on a plusieurs témoignages de Constant, le valet de chambre de Napoléon, du baron de Menneval également, qui était le secrétaire de Napoléon, qui nous ont raconté les festivités du 25 août 1811. On sait que l'empereur s'était beaucoup promené, bras dessus avec l'impératrice, qu'il l'embrassait comme du bon pain, dit-on, etc., pour la mettre en confiance. Et puis également, on sait que les musiciens de Paër, le musicien italien donc, qui était le maître de musique de l'impératrice, avait embarqué dans des barques sur la rivière anglaise et sur les lacs du hameau et du Belvédère, de manière à jouer des musiques. Il y a eu également des représentations théâtrales au petit théâtre de la Reine, des pièces de Alisande de Chazet. Et donc le soir, toute cette grande cérémonie s'est terminée dans la galerie des Cotels au Grand Trianon, où il y a eu un immense dîner qui s'est terminé vers minuit à peu près. Voilà. Donc c'est l'une des rares fêtes que nous connaissions véritablement qui soit décrite au hameau. Alors voici les travaux du hameau. Bon. Comme je vous disais tout à l'heure, le hameau, personne de vivant de nos jours ne l'a vu meublé en bon état, etc. Donc encore une fois, ce sera une véritable révélation. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de couleurs de 1811 ont été conservées. C'était un peintre décorateur qui s'appelait Pierre Drahonnet, qui avait peint l'ensemble des pièces. Voici la salle du billard de la maison du bailli, donc qui a conservé sa couleur verte, voilà, que nous allons restituer bien entendu. Et il y aura des grands rideaux en coton blanc. Et nous avons bien sûr un billard, des sièges à mettre, etc. dans cette pièce. Mais vous voyez, il y avait des poteaux de soutènement parce que le plafond s'écroulait. Encore une fois, l'humidité est épouvantable au hameau. L'une des raisons pour lesquelles les travaux ont été si longs, c'est qu'il a fallu faire un traitement d'air pour la bonne conservation des objets dans le hameau, dans la maison de la reine. Sachez que nous avons fait des études d'humidité Et l'été, lorsqu'il y a des orages, l'humidité à l'intérieur des maisons monte à 90%. Voilà. Donc imaginez les soieries, imaginez les bronzes, les cuirs sur les sièges et les tables. Il fallait absolument faire un traitement d'air qui posait problème parce qu'il y a peu d'espace quand même et presque tout est visitable. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. On va en fait tout simplement extraire l'air humide et pulser de l'air séché. Voilà. Mais on ne pourra peut-être pas ouvrir le hameau tous les jours d'été, lorsqu'il y aura trop d'humidité. Donc on va voir comment on pourra gérer au mieux le côté visitable du hameau. Hein. Voici le petit salon blanc dont je vous parlais avec les meubles d'Amarant, tel qu'il se présente de nos jours. Il a conservé sa cheminée, il avait conservé également une partie des bois de support des tentures, donc le fameux damas blanc ou liseron. Les balambris sont également présents. Alors on ne sait pas toujours, si vous voulez, si ce sont des éléments qui subsistent de l'époque de Marie-Antoinette ou si ce sont des éléments qui ont été remis en état en 1811 pour Marie-Louise. Nous avons fait restaurer des baguettes dorées d'encadrement de soieries. Il semble qu'elles datent plutôt de 1811. Alors voici l'un des petits cabinets également mitoyens du grand salon jaune dont je vous parlais. Vous voyez qu'il a conservé son balambris peint en gris et ses grands murs jaunes. Donc tout cela va être remis en état, bien entendu. On pourra remettre, en particulier dans cette pièce, la fameuse chaise longue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors les travaux ont été toujours les mêmes au hameau. Fin 19e siècle, 1899, refaire les toitures, changer les poutres qui étaient pourries par l'humidité. Il y a eu évidemment en 1932 également, grâce au fonds Rockefeller, une grosse remise en état. C'est là également qu'on a tracé, comme je vous disais au début, sur le sol l'emplacement des maisons détruites. Il y a eu également en 1957 de grands projets où l'on a voulu remettre entièrement en état le hameau. C'est là qu'on a refait les soieries peintes, justement, qui n'ont jamais été mises en place, en fait. Et puis, actuellement, depuis quelques années, moi-même, pour ce qui est de la conservation, restauration des objets, et M. Jacques Moulin, donc architecte en chef des monuments historiques, pour le bâtiment, donc nous essayons de pouvoir inaugurer, si possible, le 2 mai. Mais je ne vous promets rien parce que malheureusement on a eu de la neige, de la pluie. Voilà, c'est quand même très compliqué le chantier du hameau. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous viendrez nombreux. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a plein de choses que je voulais vous dire et que j'ai oublié.
Je suppose que vous avez mis en place un système de chauffage pour éviter l'humidité. Alors, quel est-il ?
Alors, bien sûr, le gros problème pour la conservation, c'est qu'il n'y avait ni électricité ni chauffage. Comme je vous disais également, les maisons étaient posées directement sur le sol. Donc, gros problème d'humidité là encore. Et puis cette humidité due à des orages, la proximité du lac, tout simplement, le fait que le hameau est installé au sein de grands arbres, si vous voulez, dans une sorte de bois presque, si vous voulez. Donc effectivement, nous avons procédé donc à la mise en place de tous ces systèmes modernes de conservation. Et bien entendu, il y aura également des alarmes, il y aura des caméras pour détecter toutes les intrusions. On prend toutes les mesures qu'il faut parce que c'est quand même un musée, le quatrième, comme je vous disais, de Versailles, mais très isolé, très, très, très isolé. Donc, voilà, on hésite encore sur la mise en place définitive de certains objets très précieux, comme par exemple la fameuse pendule du roi Charles IV d'Espagne, hein, en particulier. Oui ?
Qui est la maison chargée de la restauration des tissus ?
Alors les tissus blancs, le petit damas au liseron, c'est la maison Prel. Pour le reste, c'est la maison Tassinari et Châtel. Hein. Et le tapissier, M. Chauveau, alors il faut, d'ailleurs j'en profite pour les remercier face à vous, tous les intervenants qui ont travaillé. Nous avons des bronziers, des possiers, des passementiers, la maison de Clercq, tous ont vraiment œuvré avec enthousiasme pour la maison. Hein. Et rien n'est fini encore, mais bon. Oui, monsieur.
Est-ce que l'appartement de Mick au-dessus du théâtre existe encore ?
Il existe encore, il n'est pas forcément prévu de le restaurer. Il est assez sinistre d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, j'ai pu acheter d'ailleurs quelques objets qui viennent du petit théâtre. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais c'est un projet que j'aimerais pouvoir mettre en valeur, si vous voulez, essayer de remeubler un petit peu les petits cabinets du premier étage du petit théâtre. Parce que c'est un peu froid, ça manque un peu de vie tout cela. Hein. Voilà.
Si vous n'avez pas choisi de restaurer le hameau comme il était autour du premier empire et non dans
le tout simplement, comme je vous ai dit, c'est que nous avons trop peu d'objets de Marie-Antoinette. On a une commode, deux encoignures, on a quatre chaises de la salle à manger, c'est tout. Les feux sont à Boston, il y a des encoignures également au musée de Saint-Louis aux États-Unis, voilà. Et on ne connaît pas tous les... Et surtout, on ne connaît pas les soies qui étaient sur les murs des appartements, voilà. Là, au moins, avec Marie-Louise, tout est décrit, et nous avons quand même à peu près, disons, j'estime à peu près à 60-70% d'objets provenant vraiment du hameau de Marie-Louise. Pour le reste, lorsque l'on ne les avait pas, j'ai toujours eu comme règle, si vous voulez, d'aller chercher des objets provenant de... Enfin, d'abord datant de la même époque, 1810-1811, et provenant du lieu le plus proche du hameau, c'est-à-dire tout simplement le Petit Trianon. Dans les réserves de Versailles, nous avons beaucoup de flambeaux qui datent de 1810, qui proviennent du Petit Trianon. Et comme vous savez, on n'a pas pu les remettre en place, tous ces objets, tout simplement parce qu'on avait pris le parti au Petit Trianon de mettre Marie-Antoinette en valeur. Donc beaucoup d'objets de Marie-Louise sont encore en réserve, et donc je les ai utilisés en partie pour le hameau, si vous voulez. Oui, madame.
Avez-vous mis en place des drainages autour des éléments
des
différentes habitations?
Alors oui, on a... Oui, oui. Bien sûr, oui, oui. On a mis en place... Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a creusé les sols pour faire une énorme chape de ciment dans laquelle est coulé un réseau de chauffage. Hein. Par ailleurs, le chauffage passera également au premier étage par les cheminées, comme toujours à Versailles, dans les Trianon en particulier. Et tout autour des maisons, oui, effectivement, il y a des drainages de façon à essayer de limiter les infiltrations d'eau, mais la proximité du lac est là, de toute façon. C'est un vrai problème, le hameau. D'autant plus que, franchement, la qualité de construction, mais c'est dérisoire. Les murs doivent faire 12 cm maximum. Alors, ceux qui sont avec des colombages, c'est vraiment trois fois rien. Quoi. Vraiment trois fois rien. Ça s'infiltre de partout, on le sent, d'ailleurs, on le sent. Ce qui nous pose problème, d'ailleurs, en ce moment, parce qu'on vient de couler les chapes de ciment dans lesquelles il y a ces fameux réseaux de chauffage, mais elle ne sèche pas avec le temps, ni la neige, mais voilà, c'est un vrai gros problème pour nous. Hein. Eh oui. Bon, enfin, on y arrive, on y arrive. Voilà, pas d'autres questions. Oui, madame.
Question botanique. L'if qui est au-dessus de la grotte de Marie-Antoinette, est contemporain de Marie-Antoinette
ou... L'if qui est au-dessus de la grotte, au-dessus. Non, 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 tout ça a été replanté, peut-être même après la tempête de 99, il y a eu énormément de replantations. Quand je suis arrivé à Versailles, on ne pouvait plus accéder dans le jardin. Tout était sans dessus-dessous. Hein. Bon, c'était en l'an 2000. Les quelques arbres qui subsistent, c'est le grand platane qui se trouve à mi-chemin du petit Trianon et du hameau, et puis le fameux if au pied du belvédère, et surtout le séphora, bien sûr, au pied du château. Voilà. Non, tout ça est bien postérieur. On a eu des mécénats américains, d'ailleurs, pour des replantations. Hein. Ce qui nous a permis d'ailleurs, il faut reconnaître que ça, je me souviens très bien avoir entendu souvent des conservateurs, des archéologues, dire que les guerres ou tout ça sont des bénédictions pour eux, parce que ça leur permet d'accéder dans les sous-sols, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut bien dire que pour nous, c'est presque la même chose, la grande tempête de 99 a été un bonheur, parce que malheureusement, si vous voulez, tout le 19e siècle avait fait des plantations dans l'esprit jardin anglais, bien entendu, mais qui étaient un petit peu disparates et qui n'avaient pas respecté les plans de Marie-Antoinette. Or, on sait que depuis le petit Trianon, par sa chambre, Marie-Antoinette avait une perspective qui donnait sur le hameau. Hein. Et grâce à la tempête de 99, on a pu en partie la restituer, par exemple, vous voyez, hein, alors qu'elle avait totalement disparu derrière les arbres. Oui, mais même, on en avait planté, au 19e, on en avait planté dans la perspective, si vous voulez. C'est, voilà. Pas d'autres questions ? Non. Merci.
Ah non, c'est pas d'ailleurs. C'est encore
si, pour rappuyer encore, oui. Non, c'est ça ? Pour éteindre. Voilà, ça y est.
Voilà.
Ça y est, c'est bon.